I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Elle est incapable de vivre seule dans un appartement et c'est pour ça que la poussée qu'ont fait mes enfants pour m'inciter à prendre la décision de mettre Nicole dans les pattes de Notre-Dame a été souhaitable, évidemment.
Moment douloureux pour Robert et pour sa famille dans ce document poignant déniché sur Kato TV. Alzheimer, le nom suffit en général à provoquer la tristesse chez les aidants et une forme de crainte chez ceux qui vieillissent et ne veulent pas oublier. Je suis Pierrick Fay, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité de la rédaction des Échos. Je vous donne rendez-vous tous les jours à 17h sur le site des Échos. Tapez podcast dans la barre de recherche et pour ne rater aucun épisode, je vous invite à vous abonner sur une plateforme de téléchargement et de streaming.
J'ai la mémoire qui flanche, je me souviens plus très bien quel pouvait être son prénom et quel était son nom.
On se souviendra encore longtemps de la voix de Jeanne Moreau dans cette archive de l'INA. La mémoire qui flanche, ça arrive souvent même. Quel est son nom déjà? Ça vous est sans doute déjà arrivé. Pas de raison de s'inquiéter, ce n'est pas un signe que vous allez perdre la tête ou oublier vos voisins, vos amis ou votre famille. Ce n'est pas encore un symptôme d'Alzheimer, maladie qui touche de nombreux Français. Mais alors que l'on manque cruellement de place dans les EHPAD pour les malades atteints de cette affection, pourra-t-on un jour la soigner ou en limiter les effets? Dans les laboratoires pharmaceutiques, la recherche se poursuit. Bonjour Myriam Chauveau.
Bonjour.
Vous êtes journaliste aux Échos, spécialiste de l'industrie pharmaceutique. Alors d'abord, qu'est-ce que c'est que la maladie d'Alzheimer ?
Alors, la maladie d'Alzheimer, c'est une maladie neurodégénérative, c'est-à-dire que c'est le cerveau qui connaît une dégénérescence. La maladie affecte principalement la mémoire, mais également d'autres fonctions cognitives, comme par exemple le langage, le raisonnement. On parle d'Alzheimer et de démence apparentée, parce qu'il y a plusieurs formes de démence, dont Alzheimer. Ce n'est pas la seule forme de démence. Alors, à partir du moment où le malade en est à ne plus reconnaître ses proches, dans la maladie d'Alzheimer, on estime qu'en moyenne, il lui reste 5 à 7 années à vivre.
D'où vient le nom de maladie d'Alzheimer ?
C'est le nom d'un psychiatre et neurologue allemand, Alois Alzheimer, qui est né en 1864 et qui a découvert et décrit la maladie en 1906. On a donc donné son nom à la maladie.
Combien de personnes en souffrent en France ?
Alors ça, c'est une bonne question, parce qu'on n'avait jusqu'à récemment pas de chiffres récents. On avait des chiffres qui remontaient à il y a 10 ans. Et puis, la Fondation Recherche Alzheimer, qui est un financeur privé de la recherche, a fait faire une nouvelle étude sur la base d'un sondage BVA qui a interrogé 10 000 Français sur leurs 16 700 parents et proches. Alors, résultat de ce sondage et cette étude associée, on estime que les maladies comme Alzheimer et les démences apparentées touchent 1,3 million de Français. Ça nous fait donc 11% des Français de plus de 30 ans qui ont un parent ou un conjoint atteint. Alors, la maladie, elle est présente 10 à 15 ans avant l'apparition des premiers symptômes, et ils apparaissent tard. La vaste majorité des malades ont plus de 70 ans. Ils ont 75 ans en moyenne. Pourtant, très peu des malades d'Alzheimer sont placés. Les trois quarts vivent à leur domicile. Seuls à peu près un quart des malades vivent en établissements spécialisés, dont la majorité en EHPAD. Le maintien à domicile, c'est donc la majorité des cas. Et ça va être un défi pour l'avenir, parce que d'après le docteur Olivier de Ladoucette, qui est le cofondateur de la Fondation Recherche Alzheimer, d'ici 10 ans, cette maladie d'Alzheimer va gagner du terrain avec le vieillissement de la population. Alors la Fondation va suivre son évolution en refaisant l'étude tous les 2 ans.
On aura un aperçu effectivement de la progression, mais 1 300 000 personnes, ça fait du monde. Et il faut le rappeler, hein, c'est une pathologie compliquée aussi pour les familles des malades.
Oui, c'est un fardeau pour l'entourage. Alors ça, le sondage l'a bien montré. 73% des malades d'Alzheimer sont aidés par un membre de leur famille. Alors, la moitié des malades sont aidés par un enfant et 32%, quasiment un tiers, par leur conjoint. Mais le quotidien des aidants est extrêmement difficile parce que les malades d'Alzheimer, il faut le savoir, peuvent devenir extrêmement désagréables et sont très durs à gérer. Le risque de maltraitance est alors important. 53% des personnes interrogées et même 60% des aidants, qui savent donc de quoi ils parlent puisqu'ils gèrent un malade au quotidien, 60% des aidants pensent qu'on peut vite devenir maltraitant face à une personne qui souffre de la maladie d'Alzheimer.
Les sucrètes.
Mais où est-ce la tête ?
Et vous n'en avez pas de tête, ma pauvre Dille. Un pois chiche.
Voilà ce que vous avez là.
D'ailleurs, j'en veux pas. Je suis pas de trac aujourd'hui.
Pensez-vous ? Vous êtes en pleine forme. Je mourrai avant vous.
Bah, j'espère bien.
Tati Daniel, dans ses œuvres, elle avait toute sa tête et pouvait rendre chèvre son entourage. Alzheimer, c'est une maladie qui progresse avec le vieillissement de la population. Mais que sait-on des facteurs de survenance de la maladie, Myriam ?
Alors, il y a une part génétique, mais elle est relativement faible, voire très faible. Elle concerne essentiellement les 5% de malades d'Alzheimer qui ont moins de 60 ans. On a vu que c'était une maladie où on a un âge moyen de 75 ans. Alors, ceux qui ont des formes génétiques d'Alzheimer, c'est ceux qui ont la maladie d'Alzheimer à chaque génération dans une même famille. Et ça s'explique par un gène dominant. On estime que dans le monde, ça représente moins de 1% des malades. Pour les autres, c'est une accumulation de facteurs de risque génétique, mais aucun individuellement n'explique et ne déclenche la maladie. Alors, chacun de ces facteurs génétiques, ça augmente ou ça abaisse le risque d'avoir la maladie un jour. Et ces facteurs génétiques sont une découverte récente. C'est notamment le professeur Jean-Charles Lambert, un directeur de recherche à l'INSERM, qui travaille à Lille, qui a mis en évidence en 2009, sur des malades lillois, deux premiers gènes impliqués dans la maladie d'Alzheimer. Et puis, il a mis en évidence 11 autres gènes en 2013. Et au final, dans une étude internationale qui est parue en 2022, donc c'est tout récent, Jean-Charles Lambert et son équipe de chercheurs internationaux a recensé un total de 75 gènes impliqués à divers titres, dont 42 nouvellement découverts. Donc, on en apprend vraiment tous les jours en ce moment sur cette maladie. On voit, c'est complexe, hein, parce que contrairement au cancer, ça n'est pas un seul gène qui est en cause. Ce qui veut dire qu'on ne peut pas avoir de thérapie génique, parce que pour avoir une thérapie génique, c'est forcément monogénique, ça ne cible qu'un seul gène. Là, ça ne marchera pas. C'est beaucoup plus compliqué que le cancer.
On n'est pas tous égaux face à la maladie, Myriam, on le sait, il y a sans doute des prédispositions. Et certaines études montrent que les femmes sont plus touchées que les hommes.
Alors, en effet, les femmes représentent 65% des malades d'Alzheimer. En gros, les deux tiers des malades, ce sont des femmes. Ah, pourquoi ? Bon, alors évidemment, on va tout de suite dire, ah ben, c'est parce que les femmes vivent plus longtemps. Donc, étant plus vieilles, elles sont davantage touchées. Oui, c'est un facteur. Mais il y a quand même autre chose. Les chercheurs pensent que les femmes sont davantage touchées en raison des changements hormonaux qu'elles connaissent tous les mois. Alors, tous les mois, avec les règles, il y a un changement hormonal chez les femmes et au moment des règles, le cerveau connaît un changement de volume avec une phase d'expansion. Alors, ça ne fait pas du bien au cerveau quand ça se répète toute la vie. Ensuite, il y a aussi le déficit d'hormones lié à la ménopause qui a aussi un impact sur le cerveau. Au final, les fluctuations de volume du cerveau chez les femmes pourraient expliquer le fait qu'elles sont davantage atteintes. Alors, ces fluctuations de volume chez les femmes, ça a fait l'objet d'une étude récente avec des IRM qui ont été pris à différents moments chaque mois. Et la Fondation Recherche Alzheimer, elle aussi, veut lancer une recherche sur le lien entre vie hormonale et Alzheimer.
Les femmes plus concernées, mais les études montrent qu'il y a une profession à risque, Myriam, c'est l'agriculture. Pour quelle raison ?
Alors, l'environnement et les pesticides, ça joue un rôle, par exemple. Dans le monde agricole, le professeur Bonneterre, à l'université de Grenoble, qui travaille aussi au CHU de Grenoble, a étudié différents métiers. Et on voit que ceux ayant employé des produits phytosanitaires, donc les céréaliers et les viticulteurs, ont des taux complètement anormaux de maladie Alzheimer. Normalement, les hommes sont moins touchés que les femmes, mais dans ces métiers-là, céréaliers et viticulteurs, les hommes sont surreprésentés. Conclusion, mais ça, on s'en doutait déjà par différentes recherches, les pesticides sont des neurotoxiques.
La prévention de la maladie d'Alzheimer est une réalité. Il est important de comprendre que cette pathologie peut donner lieu à une prévention. Et les études montrent que si on retarde de 5 ans l'apparition de la maladie d'Alzheimer, on diminue le nombre de malades de moitié.
Le docteur Olivier Deladoucette, président de la Fondation Recherche Alzheimer, il prépare la sortie d'un livre pour la Journée mondiale d'Alzheimer en septembre prochain, livre sur la prévention, sur le rôle de l'environnement, de l'alimentation, du stress ou les facteurs cardiovasculaires, étudié par la communauté des chercheurs. Myriam, est-ce que c'est possible de prévenir la maladie ?
En fait, on ignore si on peut prévenir la maladie d'Alzheimer, mais le mode de vie permet en tout cas au moins de retarder l'apparition des symptômes. La preuve, il y a 10 ans, en 2014, il y avait 1,2 million de cas d'Alzheimer en France, contre 1,3 million aujourd'hui, selon la nouvelle recherche de la Fondation Recherche Alzheimer. Alors, ça veut dire que la maladie, elle a peu progressé, malgré le vieillissement et l'accroissement de la population. Alors, pourquoi ? Jean-Luc Angélis, le directeur de la Fondation Recherche Alzheimer, l'explique par le fait que depuis 10 ans, on est passé d'une génération de femmes de l'après-guerre plutôt campagnardes, qui n'avaient pas fait d'études, à des femmes qui ont beaucoup plus souvent fait des études. Or, il se trouve qu'avoir une activité intellectuelle entre 18 et 25 ans, ça accroît la plasticité cérébrale et ça réduit le risque ultérieur de maladie. En clair, la vie intellectuelle et les études, quand on est jeune, ça crée davantage de connexions neuronales et le cerveau, c'est comme un coffre-fort. Jusqu'à 25 ans, on met en banque tout ce qu'on peut. On se fait une réserve cognitive et les études, ça accroît les flux électriques entre les différentes aires du cerveau, entre les neurones. Et ensuite, pour le restant de sa vie, on vit sur cette réserve de connexion qu'on a créée. Alors, d'où aujourd'hui la crainte des chercheurs des conséquences d'une jeunesse qui est passée pour les enfants d'aujourd'hui devant des écrans et sur les réseaux sociaux. Parce que Instagram, ça stimulerait moins le cerveau que de construire une cabane en bois. Et ça risque de se payer cher plus tard.
Un livre à ne pas manquer, il paraîtra donc en septembre pour la Journée mondiale d'Alzheimer. Une chose est sûre, il faut faire travailler régulièrement son cerveau. Vive les mots croisés et les sudoku. Mais je me souviens aussi, sur Nintendo DS, du jeu du professeur Kawashima et de cette publicité avec Nicole Kidman, 42 ans à l'époque.
60 moins 6, 54 moins 6, 48.
Et vous, quel âge a votre cerveau ?
Il vaut mieux prévenir que guérir, mais on l'a compris, souvent on ne peut que freiner l'arrivée et l'évolution de cette maladie. Myriam, qu'en est-il des traitements ? Est-ce qu'il existe aujourd'hui des médicaments pour soigner Alzheimer ?
Alors, on a découvert la maladie d'Alzheimer en même temps que le cancer, il y a plus d'un siècle. Depuis, l'oncologie a fait des progrès immenses. On peut soigner de nombreux cancers, alors que le cerveau reste la partie du corps qu'on comprend le moins. Et sur Alzheimer, il n'y a toujours aucun traitement ralentissant la maladie. Ou plutôt, il n'existait aucun traitement, jusqu'à l'an dernier. Parce qu'une nouvelle famille de médicaments arrive. Ce sont des injections par intraveineuse d'anticorps qui s'attaquent aux plaques qui s'agglutinent sur les neurones chez les patients atteints d'Alzheimer. C'est des plaques, des espèces d'agglomérats qui s'appellent des plaques amyloïdes. Alors, on soupçonne ces plaques d'amyloïdes d'être la cause d'Alzheimer. Ça reste un débat, entre les chercheurs, tout le monde n'est pas d'accord. Certains pensent que les plaques d'amyloïdes, elles sont juste une conséquence de la maladie et pas la cause. En tout cas, on n'en est pas sûr, mais enfin, pour l'instant, les nouveaux médicaments, ce sont des anticorps qui visent à supprimer ces plaques d'amyloïdes, en partant de l'hypothèse qu'elles sont la cause de la maladie. Pour l'instant, c'est la première génération de médicaments et leurs bénéfices restent modestes. L'Europe avait même retoqué le premier médicament, qui était du laboratoire américain Biogen. Il avait été approuvé en 2021 aux États-Unis, mais alors l'Europe l'a retoqué tellement son efficacité était controversée. Alors là, Biogen, l'américain, récidive, mais cette fois-ci en partenariat avec le japonais Eisai, un autre laboratoire. Ils sortent ensemble un médicament qui s'appelle le Leqembi. Il a été pleinement autorisé en juillet 2023 aux États-Unis. Il a été autorisé en Chine début 2024. Et en Europe, il attend son autorisation de commercialisation, a priori dans quelques mois. Alors, ces essais cliniques mesurent une réduction de 27% du déclin cognitif en 18 mois chez ceux qui sont en stade léger de maladie d'Alzheimer, c'est-à-dire en stade 2 ou 3 sur une échelle de 10. Ils auraient 27% de déclin cognitif en moins en 18 mois par rapport à des malades non traités.
27% aux Européennes, ce serait un bon score, mais pour un médicament, c'est pas très engageant quand même.
Ah, c'est vrai que 27%, c'est plutôt modeste, sachant qu'en plus, ça a été mesuré dans les conditions idéales d'un essai clinique. En gros, les médecins ont noté de 0 à 18 le déclin cognitif. Alors, plus le chiffre est haut, plus le déclin est important. Donc, 0, ça veut dire 0 déclin. Au départ, quand on a commencé l'essai, les malades avaient un score de 3,2 en déclin cognitif. Donc, c'est des troubles très légers. Et puis 18 mois plus tard, ceux qui avaient été traités avec le Leqembi avaient un score de 4,4 et ceux qui n'avaient pas été traités avaient un score de 4,86. Alors la différence de déclin n'est pas énorme. Ça équivaut à gagner 5 mois sur la progression de la maladie. Mais évidemment, c'est mieux que rien. Alors la question, c'est de savoir si la différence de déclin cognitif, elle s'accroît avec le temps. On n'en sait rien pour l'instant parce qu'on n'a que 18 mois de recul. Il y a quand même un médicament rival du laboratoire américain Lilly qui s'appelle le donanemab. Il n'est pas encore commercialisé, donc c'est un candidat médicament. Et il fait un peu mieux. Ses essais cliniques montrent qu'il réduit de 35% le déclin cognitif.
Ouais, c'est déjà un petit progrès. C'est vrai que 5 mois, c'est déjà toujours ça de gagner. Mais Myriam, les premiers résultats laissent aussi entrevoir les limites de ces médicaments.
Oui, alors, ils ont des effets secondaires importants, ces nouveaux médicaments, qui ne sont pas anodins du tout. Le Leqembi cause 13% d'œdème cérébral, alors que les malades qui étaient dans le groupe placebo et qui n'ont pas pris le médicament n'ont fait que 2%. D'œdème cérébral. Donc 13% contre 2% en groupe placebo, ça fait quand même une grosse différence. De la même manière, le Leqembi cause 17% de micro ou de macro hémorragie cérébrale contre 9% dans le groupe placebo. Et pour le donanemab de Lilly, c'est encore pire. 24% d'œdème cérébraux et 31% de micro hémorragie contre 14% dans le groupe placebo, puisqu'il faut bien souvenir que même dans le groupe placebo qui n'est pas traité par un vrai médicament, ce sont des gens âgés, hein, donc ils peuvent quand même avoir des micro-hémorragies. Alors, il y a encore plus inquiétant que ça. Ça, c'est ce qui est sorti des essais cliniques, mais depuis, des chercheurs qui suivent les cohortes de patients traités ont rapporté en février 2024 que le cerveau des patients prenant ces médicaments semble perdre de son volume. Alors là encore, on manque de recul à 3 ou 5 ans. Mais les effets secondaires des essais cliniques inquiètent suffisamment l'autorité de santé américaine, la FDA, pour qu'elle prenne des mesures. Alors la FDA, elle sait très bien que les effets secondaires des médicaments sont toujours minorés dans les essais cliniques qui se passent tout le temps en conditions idéales. Hein. Ça va être bien pire en vie réelle parce que les gens seront plus âgés, plus fragiles, qu'ils prennent déjà d'autres médicaments et donc ils vont avoir des interactions médicamenteuses. Donc, l'autorité de santé américaine a autorisé le Leqembi mi-2023, mais avec l'obligation d'une surveillance IRM du cerveau. Et pour le moment, le Leqembi va rester le seul médicament autorisé. Lilly attendait le feu vert américain à la commercialisation pour fin mars, mais finalement, le 8 mars, la FDA a repoussé sa décision et a créé une commission d'enquête pour évaluer la sécurité du donanemab. Alors, il n'y aura pas de feu vert aux États-Unis, du coup, avant des mois. s'il y a un feu vert un jour, parce que la FDA peut très bien décider qu'il est urgent d'attendre.
Ah Myriam, les avancées de la médecine sont aussi faites d'échecs. Toutes les molécules ne donnent pas lieu à des médicaments vraiment miracles, mais on voit quand même que les travaux avancent. Et il y a des perspectives aussi offertes par une autre catégorie de médicaments et qui incitent quand même un peu plus à l'optimisme.
Oui, alors c'est sûr que côté autorité de santé, il peut y avoir une bonne raison d'attendre. Il y a une autre famille de médicaments complètement différente qui pourrait arriver dans 2 ans. Alors là, on n'est plus sur un médicament qui vise à supprimer les plaques d'amyloïde qui s'agglutinent sur les neurones. Le mécanisme d'action est complètement différent. C'est une famille de médicaments qui fonctionne en empêchant l'inflammation du cerveau. Et en fait, c'est un médicament qu'on connaît déjà très bien. On l'utilise en effet déjà comme antidiabétique et comme coupe-faim pour perdre du poids. C'est le fameux Ozempic, qui s'appelle Wegovy dans sa version coupe-faim, ou plus exactement, c'est son principe actif pharmaceutique. C'est une molécule qui s'appelle le sémaglutide. Le sémaglutide a déjà prouvé qu'il avait plein de vertus. Il réduit les risques cardiovasculaires, il réduit les risques d'insuffisance rénale. Donc maintenant, il est en essai clinique de phase 3, donc la dernière phase, pour voir s'il parvient à réduire les risques de maladie d'Alzheimer. Et pas sur des diabétiques, C'est bien un essai clinique du sémaglutide contre la maladie d'Alzheimer chez des malades qui n'ont pas de diabète.
Myriam, attendez, ça veut dire qu'on peut soigner Alzheimer avec un coupe-faim ?
Alors, c'est pas aussi bizarre que ça en a l'air, d'utiliser un antidiabétique coupe-faim contre la maladie d'Alzheimer. Parce que, après tout, l'antidiabétique Ozempic, ça régule la glycémie, comme tous les antidiabétiques. Or, il faut savoir que le cerveau, c'est le principal organe à utiliser le glucose. Et quand il y a un problème de glycémie, c'est le cerveau qui est le premier organe à en souffrir, voire à en mourir. Quand vous faites une hyperglycémie, ça déstabilise la barrière qui protège le cerveau. Et résultat, la barrière se troue. Des éléments passent à travers et le cerveau déstabilisé a une réaction immunitaire, d'où l'inflammation, la neuro-inflammation. Donc Alzheimer fait partie des maladies neuro-inflammatoires comme Parkinson ou comme la sclérose en plaques. Alors, c'est pour ça, à cause de ce rôle du glucose qui passe la barrière du cerveau, qu'on observe que 30% des malades d'Alzheimer sont aussi des diabétiques de type 2. Avoir des problèmes de glycémie, ça accroît considérablement les risques de faire une démence. D'ailleurs, les bases de données sur les diabétiques ont montré que ceux qui prennent les nouveaux antidiabétiques ont une forte diminution de leur risque de démence. Mais pour les non-diabétiques également, l'Ozempic ou le Wegovy, peu importe, donc cette molécule sémaglutide, pourrait bien être bénéfique. Donc on se demande aujourd'hui si le sémaglutide pourrait calmer la neuro-inflammation et même faire en sorte que la barrière qui protège le cerveau se répare.
Et ça, c'est intéressant, Myriam. Et pour le savoir, des tests sont en cours.
Un essai a été lancé en 2021 par Novo Nordisk, le laboratoire qui fait l'Ozempic, sur 3800 malades atteints d'Alzheimer en stade léger, mais non diabétiques. Les résultats sont prévus fin 2025. Sur cet essai mondial, il y a d'ailleurs 124 patients français de 12 hôpitaux français différents. Donc on le voit, au final, on explore plusieurs voies thérapeutiques. Il y a aujourd'hui à peu près 300 molécules pharmaceutiques qui sont développées pour essayer de contrer la maladie d'Alzheimer. Alors, un quart cible l'inflammation du cerveau, comme le sémaglutide, l'exemple que j'ai donné. D'autres aussi ciblent les plaques d'amyloïde. D'autres ciblent encore autre chose. Alors ça tâtonne, on verra bien qui a raison, et on pourrait le voir d'ici quelques années, mais en tout cas, au moins, maintenant, il se passe quelque chose dans le traitement d'Alzheimer au bout d'un siècle sans médicaments.
Ça y est, je l'ai retrouvé.
Ah ! Eh ben, c'est pas trop tôt. Où est-il ?
Il est dans une clinique.
Dans une clinique ? Mais qu'est-ce qu'il faut dans une clinique ?
Il faudra de la patience et sans doute pas mal de recherche et développement. Mais une chose est sûre, Myriam, les groupes pharmaceutiques mettent le paquet sur la recherche parce que les enjeux financiers sont énormes.
Oui, alors le médicament de Lilly, c'était un des lancements les plus attendus de 2024, le donanemab, avant que la FDA décide de ne rien décider. C'était un des lancements stars de tous les médicaments au niveau mondial, on l'attendait. Parce que les analystes financiers lui voient plus de 2 milliards de dollars de ventes annuelles d'ici 2028. Et pour le Leqembi, qui a un an d'avance, le médicament donc de Biogen et Eisai, Eisai table sur 7,3 milliards de dollars de ventes annuelles en 2030 quand il aura atteint son rythme de croisière. C'est énorme en ventes annuelles. Donc le Leqembi, il a été lancé tard l'année dernière. C'est en 2024 qu'il va monter en puissance. Et s'il confirme les espoirs d'Eisai et de Biogen, ça pourrait faire affluer les capitaux pour davantage financer la recherche sur Alzheimer. Alors, le sémaglutide, lui, n'a pas besoin du marché de l'Alzheimer, puisque c'est déjà un antidiabétique star, un coupe-faim star. Il est star de tout ce qu'on veut. Il a déjà un marché évalué à 126 milliards de dollars de ventes annuelles en 2026, dont un peu plus de la moitié dans les coupe-faim pour le traitement de l'obésité, le restant dans le traitement du diabète du type 2. Alors, si en plus il marchait pour l'Alzheimer, ce serait que du bonus, mais alors ce serait un très gros bonus.
Merci Myriam Chauveau, spécialiste aux échos de l'industrie pharmaceutique, pour ce point sur les avancées du traitement d'Alzheimer. Je rappelle la sortie du livre de France Alzheimer en septembre prochain. Et puisque l'on parle lecture, je vous recommande la sortie de Papy Mariol de Benoît Philippon, Les aventures d'un tueur à gages atteint d'Alzheimer. C'est touchant et drôle, la critique est à retrouver dans les pages culture des Échos Week-end. Merci à Willy Gann, à la réalisation du podcast des Échos, chargé de production et d'édition Michel Varnet.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. Winning is an everyday mindset, and we're here to help. I'm Craig Robinson. Join me and Coach John Calipari for Ways to Win. We're kicking off during March Madness. Cal's Kentucky Wildcats are in the hunt, so throughout the tournament, I'm going to call up my friend to ask about his wins, losses, and especially what he's telling his players in the locker room.
You got to win every day.
Find the Ways to Win podcast anywhere you listen.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.